France Inter.
Il y a quelque chose qui soigne dans ce travail historique, qui me soigne moi, mais qui soigne aussi les autres. Si je vais à une manifestation, les gens m'arrêtent et me disent merci.
Je suis persuadé que la pratique du théâtre enseigne aussi la démocratie, la règle. C'est-à-dire la règle, c'est que si tu dis pas ta réplique, l'autre peut pas dire la sienne.
Paris, Varsovie, Drancy, Auschwitz, Nuremberg, New York, dans Itinérance, l'historienne Annette Viviorca retrace son parcours en regroupant des articles publiés durant une quarantaine d'années. Avec toujours une introduction, elle chemine parmi les lieux qui ont laissé leur empreinte dans sa mémoire et souvent dans la mémoire collective. Éclairage sur Auschwitz, où furent assassinés ses grands-parents, un arrêt à New York, où elle apprend le yiddish dans les années 80 sur les traces de son grand-père, une pause à l'hôtel Lutetia à Paris qui accueillait les survivants de la déportation, des lieux et des rencontres racontent sa vie de chercheuse. Bonjour Annette Viviorca.
Bonjour.
Votre livre sort chez Albin Michel en cette année du souvenir, ce sont les 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz. Vous avez invité un écrivain, et pas des moindres, dramaturge, auteur de L'Atelier, de Maman revient pauvre orphelin, de Mon père inventaire, de La plus précieuse des marchandises. Bonjour Jean-Claude Grimbert.
Bonjour.
J'ajoute un nouveau livre, Quand la terre était plate, dans lequel vous évoquez votre mère Suzanne. On le trouve au seuil, et je rappelle que votre père a été emmené à Drancy puis à Auschwitz, d'où il n'est jamais revenu, et que son assassinat et son absence ont certainement fait de vous l'écrivain que vous êtes. Dans ce grand atelier, nous évoquerons aussi le nouvel accrochage d'un musée d'art contemporain de la banlieue sud-est de Paris, c'est le Macval, à Vitry-sur-Seine. Le genre idéal, c'est le titre de la nouvelle exposition qui dure jusqu'en 2026. Il est 17h06, c'est votre magazine culturel sur Inter.
France Inter. Le grand atelier. Vincent Josse.
Je reviens quelques années en arrière, Annette Viviorca, il y a un livre important, vous avez d'ailleurs reçu le Fémina, c'est Tombeau, un oui. De vos derniers livres qui évoque les vôtres, les grands-parents morts en déportation, Wolf et Rosa. C'est l'autobiographie familiale et celui-ci, Itinérance, regroupe des articles par lieux traversés et étudiés, les rencontres marquantes. Il parle de vous d'une certaine manière aussi, il parle de la professionnelle de la mémoire que vous êtes.
Oui, le... C'est un peu mon atelier.
Oui. Ce
n'est pas ce qu'on appelle de l'égo-histoire, mais c'est plutôt l'atelier ou ma cuisine. Et surtout, j'ai eu envie, en regroupant ces articles, de raconter comment on passe d'un sujet à l'autre, et puis de raconter, en fait, les à-côté du métier, qui sont souvent très, très excitants. La recherche, les voyages, les rencontres, et qu'on passe sous silence comme si finalement notre travail sortait tout fait, tout cuit, sans qu'il y ait eu ces cheminements qui nous amènent dans tel ou tel sujet.
Quand on regarde 40 ans de sa vie d'historienne, notamment de la Shoah, mais pas seulement, c'est important, vous le précisez
oui,
bien
absolument,
aussi
absolument.
Dans le livre, ça n'est pas votre seule recherche oui. Depuis que vous faites de l'histoire. Qu'est-ce qu'on éprouve? On se dit, j'ai fait du bon boulot, ou ça a été cohérent, ce que j'ai parcouru, ce que j'ai étudié, Annette Viviorca?
Ce qui m'a le plus étonné, ça a été l'immense cohérence de mon travail. 40 ans de cohérence. Le premier texte chronologique de cet ouvrage, c'est un texte sur le Yivo à New York, où je vais en 1980, donc ça fait presque un demi-siècle, à la fois pour suivre les cours de yiddish qui sont donnés par le Yivo à l'Université Columbia, et pour faire des recherches sur Wolf Viviorca, sur mon grand-père. Le dernier texte chronologique, c'est un texte de 2022 qui est une postface sérieuse, au roman graphique de Kim Krimstein, qui raconte qui reprend les autobiographies de six jeunes gens de Villeneuve qui concouraient. Le concours devait avoir lieu le 1er septembre 1939, ce qui n'était pas une très bonne date pour les résultats d'un concours à Villeneuve-Vilnius. Et voilà, donc entre les deux, il y a effectivement des articles, il y a un certain nombre de portraits, soit de portraits comme des portraits, qui sont de Philippe le Jeune, de Poliakov, de Javier Cercas, et des études, par exemple, sur Saul Friedlander, qui est
un historien qui est, israélien.
Qui est un historien franco-israélo-suisse-américain.
Oui.
Il vit actuellement
à
Los Angeles. Et puis il y a toute une étude sur l'œuvre de Jean-Claude Grimbert.
Ici présent.
Parce que dans cette itinérance, il y a une... Bon, j'ai lu toute l'œuvre de Jean-Claude Grimbert, dont les thèmes recoupent tellement les miens autrement, mais que ce soit les spoliations, mais c'est surtout l'atelier pour ma génération, qui est quelques années, pas beaucoup de moins que Jean-Claude, ça a été fondateur, ça a été quelque chose d'extraordinaire.
Moi je vois ce travail-là en 98 dans une mise en scène de Gilles Dasbourdet, Jean-Claude Grimbert, et effectivement ça a été une claque aussi, vous voyez, ouais. Sans doute un tout petit peu après vous, Annette Viviorca, parce que la pièce avait déjà été montée. On est dans un atelier de confection juste après la guerre, face à une galerie de personnages attachants. Certains ont été frappés de plein fouet par le nazisme, d'autres y ont échappé, et nous passons du rire aux larmes, ce qui est la façon de faire et de raconter et de se souvenir de Jean-Claude Grimbert. On va continuer de parler, bien sûr, avec vous deux, Annette Viviorca, Jean-Claude Grimbert, mais je voudrais qu'on écoute d'abord une première chanson d'un trio familial, deux frères et leur père, Ours, Pierre et Alain Souchon.
À quoi tu penses en ce moment? À quoi tu penses? À quoi tu penses? Est-ce qu'un jour c'est fini? Fini la comédie. Chanter après minuit, place de la mairie. Les premières rumbas la nuit. Un dernier tango à Paris. Est-ce qu'un jour c'est fini? Je les garde dans ma tête. Les nuits de larmes, les jours de fête. Moi je les garde dans ma tête. À quoi tu penses? À quoi tu penses en ce moment? À quoi tu penses? À quoi tu penses? À quoi tu penses? À quoi tu penses en ce moment? À quoi tu penses? À quoi tu penses? Tant de réflexion, une robe qui vole. Sept ans de passion, on pleure, on rigole. Sur le piano du salon, chercher des paroles. Faire des chansons, console. Les nuits de larmes, les jours de fête. Moi je les garde. Tu penses? À quoi tu penses? À quoi tu penses en ce moment? À quoi tu penses? À quoi tu penses? C'était mieux avant, même si c'est pas vrai. J'avais tout le temps je l'avais. Chanteur à 20 ans. Les cheveux emmêlés, j'étais dans le vent et ce vent m'allait. quoi tu penses, à quoi tu penses en ce moment? À quoi tu penses, à quoi tu penses? À quoi tu penses, à quoi tu penses en ce moment? À quoi tu penses, à quoi tu penses?
À quoi tu penses, Ours, Pierre et Alain Souchon?
Le Grand Atelier. Vincent Josse sur France Inter.
La famille Souchon, la famille Viviorca, il y a une psychiatre, Sylvie.
Oui, absolument.
Qui prend en charge la toxicomanie, entre autres.
Oui, ça a été... enfin qui prenait, parce qu'on est presque tous, sauf Olivier, retraités aujourd'hui.
Oui, vous travaillez toujours.
Un peu, oui.
Il y a un sociologue qui s'appelle Michel Lévy-Biorca.
Absolument, qui est l'aîné.
Qui est l'aîné, et puis il y a un petit frère, ouais. Olivier Viviorca. C'est le dernier, je crois.
C'est le dernier, oui.
Est-ce que vos parents vous ont dit, il faut travailler sur les traces, il faut vous intéresser aux autres et garder leur mémoire?
Certainement pas. Ils nous ont rien dit de tel. L'idée qu'il fallait travailler, oui, c'était très présent. Pas du côté de mon père, qui n'était pas un foudre de travail, mais du côté de ma mère, le côté Perelman. Le côté Perelman était très exigeant. Donc, qu'il fallait travailler, oui. Mais sur les traces, non. Et je pense que pour eux, qui avaient été éprouvés différemment, mais éprouvés par la guerre, ce qui comptait, c'était de regarder devant, et certainement pas de regarder derrière, et de construire une famille, une vie, et c'était ce qui comptait.
C'était pareil chez vous, Jean-Claude Rimbert ?
C'était pire. Il n'y avait pas de traces. En plus, toutes les traces, s'il y avait des traces, elles étaient fausses. Nous, on nous avait annoncé que Zacharie allait revenir.
Le père.
Oui. Mais moi, j'ai compris très vite, parce qu'ils avaient déporté, seul, le premier des déportés, la famille, c'est mon grand-père, Naftali, aveugle. Voilà. Quand j'ai perdu un œil, je me suis dit, même moi, on ne m'emmènerait pas pour travailler. Voilà. Donc, le fait qu'il y ait des aveugles, les gens comprenaient. C'est-à-dire, ils ne voulaient pas voir et tout. Mais au retour, on ne parle de rien. On parle que de la victoire, de la résistance, n'est-ce pas ?
Oui, oui, oui.
C'est De Gaulle accepte ou désire recevoir un ancien déporté. Il précise qu'il faut que ce soit un résistant. Et les pensions, pour ceux qui arrivaient à les toucher, c'était un tiers pour les déportés, les veuves comme ma mère, et pour les résistants, c'était l'ensemble de la... voilà, c'est-à-dire, toutes les traces étaient faussées, et tout faisait qu'on niait. Et puis, il y avait un grand problème... c'est que c'était les flics qui nous avaient arrêtés.
Mais oui.
Voilà. Et donc, on ne pouvait pas parler. Même quand les gens faisaient des films, on voyait les bottes allemandes. Même quand l'UJRE a fait un film, on voyait les bottes allemandes monter. Et quand on leur disait, mais ce n'était pas des bottes allemandes, non, c'est mieux comme ça.
Voilà. Vous le racontez, entre autres aussi, dans Quand la Terre était plate, ça, Jean-Claude Grimbert, l'arrestation de votre père. Vous étiez bébé, l'a raconté.
J'ai fait que ça toute ma vie, raconter l'arrestation.
C'est vrai, c'est
une obsession, l'ensemble évidemment. Des choses, et moi je me suis accroché à cette arrestation.
C'est
le cassage de porte, ouais. C'est le zèle.
Ils ont cassé la porte.
Je mettrais quand même une nuance. Certes, on n'en parlait pas, mais par exemple, dans ma famille, qui était plus lettrée, je n'aurais pas vexé Jean-Claude, mais comme j'ai lu, je sais que Suzanne est devenue une grande lectrice sur le tard.
Suzanne, c'est la mère de Jean-Claude.
Voilà. Mais chez moi, les livres, par exemple, « Éducation européenne » de Romain Gary. Et puis surtout, ce livre merveilleux, incroyable même, que j'ai relu pour la énième fois récemment, qui est « La muraille » de John Hersey, paru au début des années 50,
qui était best-seller un grand reporter
aux États-Unis, oui, et best-seller aussi en France, paru chez Gallimard. Donc tout ça, c'était là quand même. Et puis ce qui était là, et ce qu'on sentait très fort, c'est que on n'avait pas de grands-parents. Bon, moi, j'avais un grand-père qui avait survécu. Et puis, quand je regarde l'album de photos d'avant-guerre que ma mère a confectionné, il y a écrit « Le cousin machin déporté, machin déporté, machin déporté ». Donc, on était quand même dans des familles où il y avait beaucoup, beaucoup d'absents. Et puis, il y avait une sociabilité, et je pense que c'était différent mais pareil chez Jean-Claude, qui était quand même une sociabilité juive. Tous leurs amis étaient pareils. Il y avait une sorte de milieu très très homogène, ce qui fait que, certes, il n'y avait pas de mots. Moi, j'ai été frappé de lire chez Jean-Claude la même chose que ce que j'avais écrit. On n'avait pas de mots, on disait « pendant la guerre ». Dans nos familles, on disait « pendant la guerre ». Donc, il n'y avait pas cette conscience et on n'avait rien à se raccrocher dans l'espace général. Rien à l'école, rien... mais malgré tout, c'était quand même très présent. Présent et absent à la fois.
Jean-Claude Grimbert.
Moi, je venais d'écrire Dreyfus, qui parle un peu de l'affaire Dreyfus. Donc, j'avais cherché des documents, j'avais pris des journaux... beaucoup de journaux antisémites de l'époque, beaucoup de revues, chez un gros marchand de vieux papiers. Et quand je commence l'atelier, je cherche le retour des camps. Voilà. Et comment est traité dans les journaux de 1945 le retour. Je vais chez ce mec et je lui dis, je cherche des journaux d'immédiate après-guerre. Il me dit, ah ça j'ai pas. J'ai dit, mais pourquoi vous n'avez pas ça? Vous avez tout sur la guerre 14, vous avez tout sur l'affaire Dreyfus, vous avez tout sur 36. 45, c'est pas de l'histoire. On était dans les années 60. C'est-à-dire que j'ai vu comment, un jour, mon histoire, que j'ignorais... que j'ignorais confusément, voilà, est devenue de l'histoire. Mais quand... ça, c'est parce que des historiens s'y sont mis.
Quand avez-vous su Jean-Claude Grimbert pour votre père, sa déportation et sa mort dans un camp? Vous aviez quel âge?
Bon, d'abord, il faut dire que j'assiste au cassage de portes et tout. Je suis trop petit pour en avoir conscience, mais je suis présent... Mon frère me l'a raconté, ma mère me le raconte.
Voilà. Votre père est en pyjama, vous l'écrivez dans le livre, et il offre du vin au gardien de la paix.
Il essaye de se mettre bien avec eux. Après, je me retrouve seul avec mon frère. C'est mon frère qui, en zone libre, on ne sait pas ce qu'est devenu le père, et on ne sait pas ce qu'est devenu la mère. Et la mère ne sait pas ce qu'on est devenu, parce que les parents ne devaient pas savoir où étaient leurs enfants, parce qu'elles pouvaient toujours être raflées, on pouvait l'interroger. À ce compte-là, ils adoraient, ça c'était Pétain, mais tout le monde adorait refaire des familles pour déporter des familles entières. Voilà. Quand ils ne les séparaient pas pour d'autres raisons.
Annette Viviorca, le silence sur la déportation et sur l'extermination des Juifs a duré combien de temps en France, après la guerre?
C'est difficile parce qu'il y a, au sein du monde juif échkénaze victime, il n'y a jamais eu le silence. Moi, j'ai mon premier livre sur ces questions, c'est le livre du souvenir, Mémoriaux juifs de Pologne, que j'ai fait avec Niborski, qui montre que dans ces milieux-là, on a toujours voulu savoir. Mais dans l'espace public, pour moi, il y a une première étape qui est le procès d'Adolf Eichmann, qui a un grand retentissement en Israël, bien évidemment.
Quelle année ?
61, avril 61, l'ouverture du procès Eichmann. Un grand retentissement aussi aux États-Unis. Par exemple, Art Spiegelman, qui est l'auteur de ce grand chef-d'œuvre qu'est Maus, dans Metamaus, il explique... Donc, il a des parents polonais, donc qui ont fait tout le périple de la persécution en Pologne pour Auschwitz et ensuite les États-Unis. Et il dit que c'est quand il a vu les retransmissions du procès Eichmann à la télé américaine, alors qu'il avait 13 ans, exactement de la même année, hein, avec qu'il a commencé à comprendre quelque chose. Et puis surtout à la fin des années 70. Mmh. Et dans ce sens-là, 79, l'atelier, c'est
la fameuse pièce.
C'est un des éléments de ce commencement de sensibilisation,
de reconnaissance. Mais c'est très tardif. 79.
C'est tardif.
C'est-à-dire que Jean-Claude Grimbert fait une œuvre, fait une pièce de théâtre, et que cette œuvre fait date.
C'est
de l'histoire qu'il a fait, Jean-Claude Grimbert. Alors,
ça pourrait être un sujet de discussion. Oui. Bien sûr que c'est de l'histoire. Et c'est d'autant plus de l'histoire qu'il y a cette scène extraordinaire du certificat de décès. Mort à Drancy. Donc, mort à Drancy. Donc, les déportés sont morts à Drancy. C'est la législation des marins. Quand un marin meurt en mer, par exemple Maurice Thorez, sur lequel j'ai écrit, il est considéré comme étant mort dans le dernier port où le bateau s'est arrêté. Donc, le dernier port pour les déportés en France a été Drancy. Mais après ça, il y a eu tout un mouvement initié par Robert Badinter quand il était garde des Sceaux pour faire changer les certificats de décès et marquer « mort » en déportation. Donc,
et même à Auschwitz-Birkenau, obtenir. Ouais.
Ça a été... C'est de l'histoire, parce que ça fait prendre conscience de quelque chose, et ça rentre dans l'histoire, puisque c'est quand même pas très fréquent qu'un ministre se saisisse de quelque chose qui est dans une pièce de théâtre pour changer un décret ou une loi, je ne sais pas exactement ce que c'est. Donc c'est vraiment de l'histoire. Et puis à partir des années 80, on a alors pas les premiers travaux des historiens, parce que mon premier chapitre, ma première station, je vais dire que c'est un chemin de croix, mais ma première station, c'est le 17 rue Geoffroy-Lagné. C'était là qu'il y avait le centre de documentation juive contemporaine, où il y a eu des gens extraordinaires, à une époque où on était très précaire quand on faisait ce genre de recherche. Joseph Billig, et puis Léon Poliakov. Donc il y a toujours eu quelque chose. Mais vraiment, c'est ce tournant de fin des années 70, début des années 80, et c'est au début des années 80 que la Shoah va rentrer dans les programmes scolaires.
J'aimerais bien qu'on écoute Léon Poliakov.
Eh bien, écoutons Léon Poliakov et son accent.
J'ai envie de dire qu'ils font partie des personnages
absolument
d'itinérance d'Annette Viviorca. Écoutez-le.
Il y a une série de hasards. En débarquant après la libération à Paris, il fallait que je me trouve un job. J'ai été engagé comme directeur du service de recherche par une institution qui venait d'être créée, qui s'appelait le Centre de documentation juive. Il s'agissait donc d'enquêter sur les crimes nazis. Et par le plus grand des hasards, je suis pénétré à la Sûreté nationale, j'ai expliqué ce que je cherchais, et alors ils m'ont dit, voilà, là, il y a une caisse qui vient d'arriver, pleine de documents allemands, et nous ne lisons pas l'allemand. Et je lisais l'allemand, je suis devenu l'interprète, et c'est comme ça, de proche en proche, que je suis devenu l'expert de la délégation française à Nuremberg.
Il parle de hasard.
Mais il a bien raison, il y a du hasard dans les sujets qu'on choisit, il y a du hasard dans nos vies. Et c'est lui qui a fourni à un des procureurs français qui était Edgar Faure, toute la documentation qui lui a permis de façon exceptionnelle, parce qu'Edgar Faure était quand même redoutablement intelligent, de faire l'accusation française de crime contre l'humanité à l'Ouest, et de montrer pour la première fois le fameux télégramme d'Izieux qui va servir, quelques dizaines d'années après, a inculpé Klaus Barbie de crimes contre l'humanité.
Jean-Claude Grimbert, est-ce que vous lisez, est-ce que vous avez lu tous ces historiens dits de la Shoah ?
Alors,
on parlait de Poliakov, il y a aussi Friedlander.
Chez moi, il n'y avait pas de livre du tout. Donc j'allais à la bibliothèque municipale et je lisais au hasard. Personne ne me disait, tu dois lire ça, c'est un chef-d'œuvre. Bon, je prenais des bouquins et je lisais. Je lisais un livre par jour. Voilà. J'étais apprenti tailleur et je foutais rien. Bon, je lisais. C'est en lisant un livre de Warfast sur les Indiens d'Amérique, c'est-à-dire c'est une... ça s'appelle La Dernière Frontière. Tous les combattants sont partis pour la dernière bataille et ils laissent derrière eux les vieux, les femmes et les bébés dans la neige, sans manger. Je lis ça et c'est là que ça commence pour moi. C'est-à-dire que cette image me renvoie à ce que j'avais déjà feuilleté, parcouru, imaginé. J'ai écrit un jour quelque chose, c'est pas, l'imagination n'est pas bonne pour les enfants de déportés.
Oui.
Le problème, c'est ne pas s'imaginer dans le wagon. C'est-à-dire que dès que j'ai perdu mon œil, j'étais à la place de l'aveugle. Alors, Annette, c'est ça, parce qu'elle m'a corrigé sur les dates. Donc moi, j'ai fait partir mon père avec son père pour que l'aveugle ne se retrouve pas seul. Mais Annette m'a dit non, les dates, c'est pas ça. Et tout en sachant les dates, je continuais à dire, il n'est pas parti seul. Voilà. Alors, je plaignais mon père d'avoir accompagné son aveugle de père, qui s'appelait Naftali. Et là, juste une seconde en arrière sur la loi qui fait qu'on peut aller partout, au bureau d'état civil, échanger. Une dame a su que j'avais pas d'ordinateur et que je ne m'occupais pas de ça. Elle a dit, j'ai tapé pour vous, pour savoir quelle serait la formule qui remplacerait Morat Drancy. Voilà. Alors, elle me l'a envoyé. Donc, Naftali IE, né à Galatz, devient ma grand-mère. Et Zachary IE n'est plus ma mère, n'est plus mon père, mais ma mère. Donc, quand on veut réparer l'administration, l'administration crée de nouveaux gags, de nouveaux mensonges, de nouveaux trucs. Ma mère est née dans une famille Katz. Mon grand-père, qui parlait que le yiddish à l'époque, et jusqu'au bout, on a dû lui faire H ou K. Il a fait comme ça, donc on a mis un H. Donc toute sa vie, elle a été Hatz dans une famille Katz.
Est-ce que vous-même, aujourd'hui, vous parlez yiddish, Jean-Claude Grimbert ?
Hélas, non.
Non.
Moi, je suis un... Je voulais devenir historien, par exemple. Moi, j'admirais beaucoup les historiens, surtout Léon Poliakov, quand j'ai découvert le bréviaire de la haine. Je voilà. Mais j'étais incapable de travailler. C'est-à-dire, il fallait apprendre. Et pire que ça, c'était la langue des morts. C'était la langue des vieux. Je détestais les morts, je détestais les vieux.
Voilà. On va écouter Éric Slabiak, l'ancien des Yeux Noirs qui a reformé un groupe, Joseph Joseph, et qui était venu en octobre 2023 dans le grand atelier de Zabou Breitman. Il avait chanté comme ça, là où vous êtes, Annette et Jean-Claude, il avait chanté en direct une version de La Tendresse en yiddish. C'est Boris Bergman qui a traduit la chanson.
Wenn kein Leben und Groschen und ihre Geld mit gar nicht in die Taschen und frei in der Welt. Ah, doch Leben und Liebkeit, das kann gar nicht sein. Nein, 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 nein,
Dus kenn gur nicht sein. Mir kenn leben unamassen, es ist nicht kein Fein. Mir kenn sein a schlimmassen und treffen die Zrie. A doch leben und Liebkeit, dus kenn gur nicht sein. Nein, 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 dus kenn gur nicht sein. Dus ist doch as is Krankheit, Liebe auf'n ersten Blick. Dus ist doch as is Schwachkeit, wenn sie geht mir a Kick. Richtig, richtig. Mm-hmm. Mir kenn leben wie a Genef, wie a Schnorrer, a Zar. Und schlech war bringe du's Leben, es is nicht kein Nacht. A doch Leben und Liebkeit, du's kenn gur nicht sein. Nein, 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 du's kenn gur nicht sein. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Adoch leben und Liebkeit, dus kenn gur nicht sein. Nein, 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 dus kenn gur nicht sein. Nicht sein. Nein, 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 dus kenn gur nicht sein.
Gur nicht sein, ça.
Qu'est-ce que vous dites, Annette Wybiorka?
Ben, je dis que là, comme on connaît en français, et que c'est un yiddish quand même très simple, on comprend...
Vous arrivez à comprendre, vous
avez
pris
sûr,
des cours
bien sûr, bien
en 80
sûr.
Aux États-Unis.
J'ai pris des cours, je n'ai pas été une élève très, très brillante, mais un peu quand même.
Vous écrivez des introductions aux oui. chapitres et aux articles que vous avez rassemblés, Annette Wybiorka, et vous dites avoir éprouvé de la joie à écrire ces introductions. C'est bien aussi de parler de joie dans cette émission, parce que ça fait partie de vos vies et ça fait partie aussi du théâtre et de l'œuvre de Jean-Claude Grimbert.
J'ai été très étonnée parce que... j'étais très réticente à faire un recueil d'articles, jusqu'au moment où j'ai trouvé le nom du titre. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est
Itinérance.
Le titre, Itinérance, qui m'a donné le principe narratif, qui est de partir de lieux. Et à partir de ce moment-là, j'ai écrit des introductions longues, hein, qui ont 10, 15, 20 pages.
Mais qui resituent.
Et qui resituent. Et je les ai écrits avec un immense bonheur. Et j'ai retrouvé toute la partie joyeuse de la recherche. J'évoque par exemple le périple fait en Allemagne, quand j'écrivais 1945, La Découverte, pour aller vérifier ce que j'écrivais. Donc j'écrivais un livre qui était sur les traces d'Eric Schwab, photographe, et de Meir Levin, écrivain. Donc j'ai décidé de refaire le périple en Allemagne, Brunwald, Leipzig, et je suis parti avec une de mes amies, Alice Tajman, avec un de mes anciens étudiants. On a loué une voiture, 180 à l'heure sur l'autoroute, l'ancien étudiant était absolument ravi. On est descendu à l'auberge de l'éléphant, qui était la même auberge où Hitler descendait. On a vu le livre d'or qu'il signait, Adolf Hitler, virgule, écrivain, 1924. Et tout ce périple a été joyeux. Et pourtant, on est allé à Brunwald, on a regardé des archives, et le sujet était grave. Mais c'est pas parce que le sujet est grave, voire tragique, et que l'on éprouve... constamment, je pense que c'est la même chose pour Jean-Claude, on, de temps en temps, on rééprouve l'interrogation comme au premier jour. C'est-à-dire que on se demande comment ça a été possible et on est quasiment étouffé. Et c'est pas parce qu'on a ce sentiment d'étouffement que quand on est dans le travail, ça ne peut pas être joyeux. Voilà, donc c'est un peu ça que je voulais restituer.
Oui.
Parce que vous pensez bien que j'aurais peut-être pas passé 40 ans si j'avais dû travailler toujours la tête couverte de cendres.
Oui. Jean-Claude Grimbert, le rire dans votre vie, il est présent dans votre œuvre. Il est présent dans votre vie encore aujourd'hui. Quand on appelle Jean-Claude Grimbert, on lui dit « Comment ça va, Jean-Claude ?» Il dit « À part le moral et le physique, ça va. »
Alors, moi, j'ai visité, en tant qu'enfant de déporté, j'ai visité Ravensbrück, j'avais 13 ans. Alors, j'avais visité l'année d'avant... Le nom m'échappe, la forteresse de Theresienstadt, ça ne m'avait pas impressionné. Le guide nous avait expliqué. Mais Ravensbrück...
Parce que c'est une ville, on est
oui,
dans une ville,
un château, Thérésine. Voilà, c'est ah, puis ouais. Il nous montrait dans la cour, c'est là qu'on
ouais,
pendait.
Ouais.
Bon, bah, on pendait dans la cour. Ouais. Ravensbrück, c'est justement le sujet du film là, qui a été fait... Ce qui m'avait vraiment étonné, indigné, c'était que le quartier des SS, des familles avec les petits jardinets, la piscine. Mmh. Alors la dame qui nous faisait visiter nous dit dans la piscine a été creusée par les détenus, les femmes. Voilà. Et celles qui sont mortes sont scellées dans les parois de la piscine.
Donc là, vous prenez conscience de ce que
c'est
ça a pu être.
C'est pas que je prends conscience, je reçois.
Oui.
Et le jour où, en fait, on entre dedans, on y entre par la pire des manières. Mmh. C'est-à-dire, je me souviens, je déconnais beaucoup. J'avais un copain qui déconnait aussi. On n'était que des juifs, comme l'a dit Annette, avec une grande justesse. Je connaissais pas... Et on discutait. Alors j'ai dit, ben nous, on a reçu des camions et le pot d'échappement était défectueux. Alors il fallait, c'était la guerre, il fallait s'en servir. On a mis des juifs dedans, on a allumé, ça, c'était très bien. Et à ce moment-là, il y a un mec qui se lève, qui remonte sa manche et qui nous montre son numéro. Voilà, c'est ça qui m'a fait sortir de ce que je voulais traiter comme quelque chose d'extérieur, comme ubu, voilà la folie. Et tout de suite, j'étais plongé dans l'intimité. Cet homme ne nous a rien dit, il nous a juste montré son numéro. On n'a plus jamais déconné.
Oui.
En même temps, la farce est partout. La farce est partout. Ça fait partie... quand j'y pense, cette histoire de mecs qui défoncent les portes, alors qu'ils auraient pu dire « il n'est pas là ».
Tout ça, c'est dans, entre autres, dans « Quand la Terre était plate », et comme vous l'avez déjà évoqué d'une autre manière, avec d'autres éléments, dans d'autres livres, dans des pièces de théâtre aussi, on parlait de l'atelier tout à l'heure, mais il y en a beaucoup, vous moquez un peu de vous-même aussi, parfois. D'un seul coup, le récit s'interrompt dans « Quand la Terre était plate », et on a Jean-Claude Grimbert qui dit « Hé, t'as déjà écrit tout ça sur la Shoah, papy, dans l'atelier ?» Il y a une petite cinquantaine d'années, souviens-toi. Je voudrais que vous nous parliez de ce rire chez Jean-Claude Grimbert, parce que vous avez écrit aussi sur ça.
Oui.
C'est
quelque chose...
Cet article est publié dans Itinérance.
Oui. C'est un rire qui est décapant, au sens où il décape les choses. Dans Mon père inventaire, j'espère que je ne me trompe pas, il envoie une lettre à la commission d'indemnisation des victimes de spoliation, où il décrit tout ce qu'il y a dans son appartement de tailleur, la petite céramique de Picasso où son père mettait secret, un Bosch, Jérôme. Bon, et brusquement, ça fait apparaître une vérité de cette instance d'indemnisation, car si on indemnise pour des spoliations de biens matériels, on indemnise que ceux qui avaient des biens matériels. Ceux qui avaient rien, ils peuvent être indemnisés de rien. Moi, je me souviens cette pièce où il raconte les entreprises d'enregistrement de témoignages de survivants, auxquelles j'ai consacré beaucoup de mon temps. Où c'est une dame d'Oujda, je crois, qui veut absolument être témoin, même si elle n'a pas été déportée. Donc, dans ce rire, il y a quelque chose qui nous oblige à réfléchir sur ce que sont nos pratiques, sur ce qui est l'air du temps. C'est ce que je dirais, un rire qui montre quelque chose et qui est vraiment très très drôle. Hein. L'autre jour, à table, on discutait de ces choses-là, j'ai sorti mon père inventaire et j'ai lu un morceau, je ne pouvais même pas le lire.
Oui, tellement, un des livres importants de Jean-Claude
Rimbert. Tellement je riais. Mais ce n'est pas un rire... c'est un rire qui fait réfléchir, quoi.
On va aller dans un instant, Annette Viviorca, Jean-Claude Grimbert, dans le Grand Atelier, dans un musée d'art contemporain, je vous l'annonçais, au Magval, en banlieue parisienne, juste après Saya Gray. C'est une multi-instrumentiste canadienne. Saya Gray dans le Grand Atelier sur France Inter, Shell Hoffman.
Le Grand Atelier sur France Inter.
Je vous propose de nous rendre au Magval, le musée contemporain du Val-de-Marne qui se trouve à Vitry-sur-Seine, au sud-est de Paris. Le Magval est le seul musée à être exclusivement consacré à la scène artistique en France depuis les années 50. Et je salue le directeur du Magval. Bonjour Nicolas Surlapierre.
Bonjour à vous.
Une exposition au titre intrigant, le genre idéal. Alors il faut s'accorder sur ce mot, de quel genre parlez-vous ?
Alors là, je ne parle pas du tout du genre tel qu'on l'entend maintenant, c'est-à-dire dans les gender studies, c'est-à-dire qu'on serait déterminé par une identité sexuelle, quelle qu'elle soit, ou en tous les cas par notre sexe, mais je parle d'un autre genre. C'est le genre que définit Félibien dès 1666-1667 dans ses conférences sur la sculpture et la peinture. Et d'ailleurs, il ne dit pas genre, il dit sujet. Il classe l'art en 5 grandes catégories. Alors c'est très simple, on les connaît, hein, c'est des noms très simples, ça, c'est la nature morte, le paysage, le portrait, la scène de genre et au sommet des genres, la peinture d'histoire.
Donc au XVIIe siècle, il y a des genres nobles et des sous-genres.
Exactement. Et pour venir à la période contemporaine, on va me dire, mais vous êtes complètement fou de parler des genres dans un musée d'art contemporain. Mais pour venir à la période contemporaine, les genres ne sont pas abandonnés. Parfois, des artistes vous disent, c'est une nature morte, c'est un portrait. Ou parfois, ils disent même, j'ai voulu faire face à l'histoire. Ils ne parlent pas de peinture d'histoire parce qu'on a dépassé, évidemment, en art contemporain, le séquençage ou la spécialisation par technique.
Aujourd'hui, en matière d'art, y a-t-il un genre noble ? Nicolas Surlapierre.
Non, je crois pas qu'il y a de genre noble en matière d'art, contemporain en tous les cas. Pour la bonne et simple raison que ce qui est important pour comprendre le sujet que j'ai voulu apporter au MacVal sur cette nouvelle ou ancienne théorie des genres, c'est tout simplement l'absence de hiérarchie. D'une part, c'est-à-dire que les genres se valent. Et l'autre point qui m'intéresse encore plus et qui revient aussi à la théorie du genre, hein, et là dans le sens gender, c'est l'extrême fluidité entre les catégories. Il y a des natures mortes annoncées comme telles par les artistes qui sont en réalité des paysages. Il y a des paysages annoncés comme des natures mortes. Je vous donnerai un exemple. On a un feu de camp, le reste d'un feu de camp de Movarica, qui, d'après des forêts d'Australie et de France après les méga-feux. C'est absolument passionnant, mais c'est à la fois une façon de penser le paysage, post-apocalyptique, post aussi transition écologique et catastrophe écologique, mais c'est aussi regarder une nature morte au sens strict, au sens le plus littéral, la nature qui est en train de mourir.
Quand on rentre au MacVal, dans ce nouvel accrochage, qu'est-ce qu'on voit d'abord ?
On déambule dans une grande série qui est réfléchie sur les mutations du paysage à l'âge contemporain. Il y a 2 salles consacrées à la scène de genre. Ensuite, une grande galerie de portraits, mais évidemment sous différentes natures. Ça peut être des installations, des vidéos, des séries de photographies, des décollages d'affichistes. Et enfin, on finit dans la grande salle qu'on appelle la nef, avec l'artiste face à l'événement historique, puisqu'on ne pouvait pas parler de peinture d'histoire. Et ce que je tiens à préciser, c'est que n'attendez pas à trouver une salle nature morte. On a essayé de rebaptiser les genres pour les contemporanéiser et pour montrer aussi le rôle de la façon de nommer les choses pour circuler dans ces catégories et peut-être pour en jouer avec elles.
Alors par exemple, pour le portrait, comment vous avez nommé cette salle ?
Oh ben, on était très simple, on appelait ça les gens. J'aime beaucoup la section sur la nature morte, qu'on a appelé ça les biens. Le paysage, nous avons appelé ça les horizons. Et puis la peinture face à l'histoire, on a appelé ça les heures. Et on a présenté ça comme un journal de 20 heures. C'est une grande salle qui décrit une sorte de sommaire imaginaire et réel de tous les sujets qu'on pourrait traiter dans un 20 heures.
Par exemple, le réchauffement climatique ?
Par exemple, le réchauffement climatique, les migrants. Cette exposition, elle rit, elle se moque, mais à la fois, elle dit quelque chose de très profond. En tous les cas, je ne sais pas si c'est des combats, mais des enjeux à venir.
Le genre idéal, en principe une tentative d'épuisement, c'est le titre exact de cette exposition, qui est donc une nouvelle façon d'accrocher au MacVal. Je vous remercie Nicolas Surlapierre. On peut voir cette exposition qui vient de commencer jusqu'à quel moment ?
Alors comme ce sont les collections permanentes sont accrochées. Vous avez beaucoup de chance, vous avez du temps pour la voir, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas vous y précipiter. 18 mois ou 2 ans en fonction de notre calendrier des expositions temporaires.
Annette Viviorca, j'aime bien demander aux invités s'ils ont un conseil à nous donner de lecture, de sortie. Et vous m'avez dit, oh, c'est la première fois de ma vie, à l'âge que j'ai, que je vais voir un concert pop.
Oui, moi j'ai toujours aimé la chanson, mais mes deux idoles, c'est côté yiddish, Talila,
oui,
et côté non-yiddish, Barbara. Et je crois que je n'ai jamais entendu d'autres chanteuses après Brel, Barbara, enfin toute cette génération-là. Et puis par les hasards, parce que comme dit Léon Poliakov, dans la vie, il y a des hasards.
L'historien.
Je vais, pour la première fois, il y a un an et demi peut-être, à un concert pop. Comme je dis dans Intermittence, je n'ai pas été très festif, j'ai beaucoup travaillé. Et là, je suis littéralement bluffé par la personnalité, par les chansons de
la grande Sophie,
et par sa présence sur scène. Et notamment cette chanson qui est, je crois, son tube, qui est « Du courage ». Et « Du courage », je me chante, enfin, je vous épargnerai, mais je me la chante de temps en temps quand je me dis « Du courage ». Et puis ensuite, j'ai eu l'occasion de lire le livre qu'elle
vient de
publier, son premier roman, qui est un...
Tous les jours,
bon, je dirais pas que c'est... Un roman, ça serait plutôt un récit épistolaire sous forme de livre écrit à une personne dont on ignore tout, qui s'appelle Sophie. Ça m'a amusé parce qu'il y a un critique qui a pensé que c'est son psychanalyste ou sa psychanalyste, mais on n'en sait rien. Et qui, avec une honnêteté, une franchise, reprend en fait tout ce qui a été son itinéraire. Alors du coup, puisque j'avais déjà vu un concert pop, je suis allé l'écouter à nouveau pour un spectacle qu'elle a donné à la Maison de la Poésie, et qui était un spectacle où à la fois elle lisait des textes et où elle chantait. C'est-à-dire, en fait, c'était une mise en scène
de son livre. Tous les jours, Suzanne,
tous les
la
jours,
grande
Suzanne.
Sophie, vous avez bien parlé d'elle, Annette Viviorca. Vous devriez faire des chroniques rock, pop et
peut-être
chansons françaises.
Peut-être que je vais me mettre à la chronique pop,
mais
oui.
Vous
êtes une bonne idée.
Vous êtes une femme curieuse. Jean-Claude Grimbert, vous avez envie de parler de Jean-Claude Grimbert au théâtre, qui est joué en ce moment à Paris, à la Scala. Vous avez jusqu'à fin juin pour aller applaudir deux grands comédiens et un texte pas mal aussi.
Oui.
Hein, mais... Dites-nous comment s'appelle cette pièce, s'il vous plaît, Monsieur Grimbert.
Moment. Et ils ont mis un sous-titre, Pourquoi les méchants sont méchants.
Oui.
Voilà. Et c'est joué par Hervé Pierre, qui était il y a peu de temps à la Comédie Française, et son épouse Clotilde Mollet, que j'ai eu, moi, dans Vers toi, terre promise. C'est une comédienne exceptionnelle, et Hervé Pierre aussi. Et il joue... Alors, il se trouve que c'est une pièce de moi, mais j'aurais vu la même chose, pas écrite par moi.
Vous auriez applaudi.
Vous aurez quand même dit que c'est... Mais comme je ne vais plus au théâtre, je ne vais voir, hélas, que mes pièces... J'ai quand même trouvé ça formidable, bien que je connaisse la pièce. Et le suspense terrible qu'on attend.
Le dernier livre de Jean-Claude Grimbert, c'est « Quand la terre était plate ». Est-ce que vous écrivez autre chose en ce moment? Parce que vous ne pouvez pas vous arrêter d'écrire.
Ben, c'est en train de s'arrêter parce que je n'arrive pas à me relire. J'écris à la main, j'écris trop mal. Alors, pour l'instant, j'ai commencé trois trucs. Il y a un moment, on se dit « Est-ce que je vais finir ?» Ça dure 2 ans, un roman. Les pièces de théâtre, à une époque, je pouvais écrire une pièce en 1 heure. Voilà. Ou en 20 minutes.
Et aujourd'hui?
Elle était plus courte. Maintenant, j'écris plus de théâtre parce que c'est devenu tellement difficile de trouver des lieux,
C'est vrai.
Et puis, être obligé d'écrire. Alors, moment, je l'ai écrit à deux personnages. C'est mon choix.
Un fils et une mère.
Voilà. Mais être obligé d'écrire des seules en scène ou des trucs, ça devient... Enfin bon. Tout est une question d'argent.
Annette Viviorca, merci pour cette venue dans le Grand Atelier et puis pour ce livre, Itinérance, la découverte de vos lieux et des lieux de la mémoire collective et puis des rencontres que vous avez pu faire et de la joie aussi qui chemine avec vous depuis toutes ces années. Merci beaucoup.
Merci.
Itinérance, publié chez Albin Michel. Lucie Lemarchand a réalisé cette émission préparée avec Louise Tempero, Virginie Rouzic, Betty Algray, Valentine Chedebois a programmé la musique, il y avait à la technique cet après-midi Paola Collin. On se retrouve samedi pour la balade et puis dimanche, 17h également, le grand atelier sur Inter. Ce sera celui du danseur étoile de l'Opéra de Paris, Hugo Marchand.